France Culture.
Bonjour à toutes et tous. Première étape de la tournée du président américain en Asie. Aujourd'hui, Donald Trump est en Malaisie. On fait le point sur les enjeux de ses déplacements avec Sébastien Berriot dès le début de ce journal. En Argentine, les élections législatives vont-elles être favorables à Javier Milei? Les Argentins vont pouvoir donner leur avis sur la politique de l'ultralibéral au pouvoir depuis 2 ans. L'actualité en France, c'est ce vote contre le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Bienvenue à l'Assemblée, un revers pour le gouvernement Le Cornu. Elle restaure des éventails et des globes terrestres. Lui est fourbisseur. On vous emmène à la fin de ce journal sur le Salon international du patrimoine culturel pour découvrir ses précieux métiers. Le président américain est arrivé en Malaisie, à Kuala Lumpur, le point de départ d'une tournée en Asie dont les enjeux sont multiples pour Donald Trump. Droits de douane, accords commerciaux seront au cœur de ces discussions alors que l'Asie est un partenaire économique incontournable. Le président américain va d'ailleurs participer aujourd'hui au sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture à Kuala Lumpur. Le président américain espère réparer les dégâts provoqués par sa politique commerciale.
Oui, c'est ça. Alors, l'image de la matinée ici à Kuala Lumpur, c'est Donald Trump esquissant quelques pas de danse auprès de l'avion présidentiel aux côtés du premier ministre malaisien. Signe concret d'une offensive de charme de la part du président américain. Conscient que ses droits de douane ont laissé des traces dans cette région du monde qui est essentielle pour l'économie américaine, inquiète de la nouvelle politique tarifaire des États-Unis, l'Asie du Sud-Est en a profité pour renforcer ses liens déjà très étroits avec la Chine. Donald Trump vient donc en quelque sorte pour essayer de recoller les morceaux en se déplaçant personnellement au sommet de l'ASEAN, une organisation qu'il avait quelque peu boudée lors de son premier mandat. Le président américain a prévu de signer plusieurs accords commerciaux aujourd'hui, notamment avec la Malaisie, l'un des gros partenaires des États-Unis ici.
Donald Trump qui a également présidé ce matin la cérémonie de signature de l'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.
Oui, vous savez que Donald Trump a beaucoup insisté ces dernières semaines pour apparaître comme un faiseur de paix à l'échelle mondiale. Le président américain en a presque fait une obsession en réclamant le prix Nobel de la paix. Alors ce conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge a fait une quarantaine de morts cette année. Un cessez-le-feu est désormais en vigueur. Et lors de la cérémonie, le président américain n'a pas hésité à s'en attribuer tout le mérite.
Si je peux prendre du temps et sauver des millions de vies, c'est une chose magnifique. Je ne pense pas pouvoir faire une meilleure chose. Les 8 guerres auxquelles mon administration a mis fin en seulement 8 mois, ce n'est jamais arrivé. C'est un domaine où je suis vraiment bon et quelque chose que j'aime vraiment faire. C'est l'ONU pourtant qui devrait faire ça, mais elle ne le fait pas.
Donald Trump a même réussi à exclure de la cérémonie les représentants chinois qui ont pourtant joué un rôle dans les discussions. Ils n'étaient pas présents lors de la signature de l'accord.
Merci Sébastien Berriot en direct depuis la Malaisie. Cette tournée en Asie n'a pas fait oublier le dossier canadien au président Trump. Il a annoncé une hausse de 10% des droits de douane sur son voisin canadien. La faute à une publicité de la province de l'Ontario contre les droits de douane américains qui a énervé le locataire de la Maison Blanche. Le président argentin Javier Milei a-t-il convaincu lors de la première partie de son mandat? Les élections législatives aujourd'hui sont un premier test pour l'ultralibéral. La moitié des sièges de la Chambre des députés et le tiers du Sénat seront renouvelés. Un enjeu majeur pour Milei qui cherche une majorité au Congrès afin de faire passer ses lois de dérégulation plus facilement. Et la pression est d'autant plus forte pour le président argentin que Donald Trump conditionne son aide de 40 milliards de dollars à une victoire lors de ces législatives. Alors que pensent les Argentins de ce gouvernement libertarien? Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
L'heure est au bilan de la gestion de Javier Milei et les législatives ont des airs de présidentiel. Il y a d'abord les électeurs convaincus, environ 30% de la population, le noyau dur des libertariens comme Daniel, promoteur de 74 ans.
Mon vote est très anti-péroniste, donc nous avons besoin que cet homme bon continue. Je sais que les gens souffrent, j'ai des amis commerçants qui vendent moins et gagnent moins, mais ils comprennent que c'est un pari. Ils parient sur le plan du gouvernement et ils vont voter pour Milei.
Il y a aussi des électeurs séduits il y a 2 ans par des propositions anti-caste et anti-système, mais aujourd'hui déçus, comme Maria, étudiante, 21 ans.
Au début, il y avait des gens qui ne venaient pas de la politique. Mais quand on a besoin d'argent, on se tourne forcément vers la politique ou l'économie privée. Je ne peux pas être satisfaite quand ce sont toujours les mêmes au pouvoir. Donc je vais certainement voter blanc.
Il y a enfin les Argentins mécontents et appauvris. C'est le cas de Mabel, employée domestique de 55 ans.
Depuis que Milei est au pouvoir, on n'a pas reçu une augmentation de salaire, alors que les prix montent tous les jours. Les retraités, eux, ont à peine de quoi manger. C'est un vrai désastre.
Javier Milei joue dans ses élections son programme économique et sa crédibilité internationale. Reste à voir si les Argentins continueront de lui apporter un vote de confiance dans un contexte de malaise social et d'incertitude.
Caroline Vic pour France Culture. En Côte d'Ivoire, les résultats sont attendus ce soir, mais l'issue de cette élection présidentielle ne devrait pas créer de surprise. Alassane Ouattara, 83 ans, qui brigue un 4e mandat, est le grand favori. Sachant que le vote hier n'a pas suscité de grand engouement dans le pays, le Nord, région pro-Ouattara, s'est globalement mobilisé. La participation, en revanche, dans le sud et l'ouest de la Côte d'Ivoire est restée faible, des régions plutôt acquise à l'opposition. En France, la taxe Zuckman attendra. Les débats sur le projet de budget se sont un peu éternisés hier à l'Assemblée. Les discussions sur le volet recettes et sur les milliers d'amendements déposés par les oppositions reprendront demain. Alors que le Premier ministre est mis sous pression par les socialistes qui attendent des mesures de justice fiscale, le gouvernement Le Cornu qui a déjà essuyé hier ses premiers revers. Marion Ferrer.
Premier camouflé pour le gouvernement, le gel du barème de l'impôt sur le revenu. La mesure a été rejetée par les députés grâce à un amendement du patron des Républicains. Laurent Wauquiez a été soutenu par une large coalition de la droite, de l'extrême droite, mais aussi par certains députés macronistes et insoumis.
Pour 226 contre 104, l'Assemblée nationale a adopté.
Rejet malgré les efforts de la ministre des Comptes publics. Amélie de Montchalin a tenté de trouver un compromis en soutenant un amendement du groupe Liot qui visait finalement à indexer uniquement les tranches les plus modestes.
Je croyais à l'année blanche. Elle représente un effort tout à fait réel et que je mesure en tant que ministre des Comptes publics. Je mesure aussi que si nous réindexons tout le barème pour l'année 2026, c'est 1,9 milliard. Je rappelle que l'amendement de M. de Courson me semble être un compromis qui est votre choix.
Mais rien n'y a fait. Dans l'hémicycle, Laurent Wauquiez a fustigé la manœuvre.
L'impôt sur le revenu est l'impôt par excellence qui frappe la France qui travaille et la France qui a travaillé toute sa vie. On ne fait pas mettre à nouveau à contribution toujours les mêmes. C'est l'État qui fait les efforts en augmentant l'économie sur sa propre dépense.
Pour rappel, le gel du barème aurait permis au gouvernement de percevoir 2 milliards d'euros grâce à une hausse des impôts sur le revenu, mais aussi à l'entrée au barème de 200 000 foyers supplémentaires, jusqu'ici exonérés car trop modestes pour être imposables.
Et ce texte du budget n'est même pas encore au Sénat que son président, Gérard Larcher, a critiqué la copie du gouvernement. Il prévient la Chambre haute rétablira la réforme des retraites si l'Assemblée vote sa suspension. Peinture, enluminure, vitraux, le Salon international du patrimoine culturel met à l'honneur jusqu'à ce soir à Paris le savoir-faire de 300 professionnels. Leur métier dans le domaine de la restauration est parfois méconnu et pourtant essentiel pour faire perdurer le patrimoine. Emma Vogli-Maxi.
À l'aide d'un pinceau et d'un cutter, Yolène Voltz restaure sur la table de son stand un éventail.
Là, on est sur de la nacre repercée. Extrêmement fin, c'est comme une dentelle de nacre.
La restauratrice est spécialisée dans 2 objets très anciens, les éventails et les globes terrestres ou célestes.
Ce sont des œuvres complexes. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui sont déjà faites en plusieurs matériaux. Ce sont des œuvres composites. Donc ce sont des challenges, vraiment des challenges de restauration. Et c'est pour ça que j'ai été absolument fascinée par ces objets-là. Et tous les jours, j'ai de nouveaux challenges.
Yolène est la seule restauratrice spécialisée dans ces objets. Elle a donc été appelée pour réparer des œuvres de grande valeur comme l'éventail de la reine d'Angleterre, Victoria.
On travaille sur des œuvres aussi belles et qui en plus ont un intérêt historique énorme. Ça donne tout son sens. Enfin, vraiment, là, c'est un métier magnifique.
Malgré ce moment de gloire, elle trouve encore son travail trop méconnu. Une vision partagée par Olivier Pinault, installé un peu plus loin. Cet ancien militaire est aujourd'hui fourbisseur.
C'est une personne qui restaure, qui répare et qui démonte des sabres et des épées, exclusivement que les armes blanches.
Il est l'un des 5 fourbisseurs de France et il a une mission.
Ne pas faire perdre ce savoir-faire et surtout la gestuelle des anciens et les techniques des anciens qui va disparaître si on s'en occupe pas.
Olivier essaye de rendre hommage à son art en le faisant perdurer. Il espère un jour trouver un